Aujourd'hui, dans ce podcast, je reçois les leaders de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, la NUP. Cette alliance présente 11 candidats dans toutes les circonscriptions des Français de l'étranger. Pour en discuter, je reçois donc Florence Pezanski, qui est basée normalement au Brésil, mais là qui est actuellement à Paris pour la France insoumise. Bonjour Florence.
Bonjour.
À côté d'elle, Alexandre Château-Ducos, qui est basé, lui, au Luxembourg, qui est élu consulaire et qui représentera Europe Écologie. Les Verts. Bonjour Alexandre.
Bonjour Fabien.
Enfin, deux autres invités. Pour le Parti socialiste, c'est la présidente de la Fédération des Français de l'étranger du parti, Cécilia Gondard, qui est candidate aussi sur la quatrième circonscription, le Benelux. Bonjour Cécilia.
Bonjour à toutes et à tous.
Et pour la première fois, je reçois Bérénice Orillo-Pieronnet, qui elle est au Kenya et qui représente Génération S, qui rejoint avec le PCF aussi, qui n'est pas présent, mais qui fait partie de la coalition, la Nouvelle Union Populaire. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabien.
Alors, on se retrouve aujourd'hui, car en quelques jours a été réalisé ce que certains pensaient impossible, une union des gauches, de la gauche, on en discutera peut-être. En quelques jours, tout d'un coup, tout le monde s'est réuni avec un énorme capital sympathie, une alliance qui semble sous les meilleurs auspices. Mais finalement, comment on peut un peu expliquer ce succès? Je vais poser cette question à Florence Pezanski de la France Insoumise, puisque c'est la France Insoumise qui fut le moteur de cette nouvelle union.
Alors, ce n'est pas directement la France Insoumise, c'est l'Union Populaire, qui était déjà une plateforme plus agrandie, puisqu'il s'agissait en fait de rassembler toutes les personnes, les figures, les acteurs culturels, les associations qui se reconnaissaient dans ce tronc commun qui s'appelle l'Avenir en commun. Et ensuite, eh bien, justement, suite à au premier tour où ce programme s'est présenté comme une priorité nationale enfin, pour un tiers des électeurs, eh bien, les organisations politiques n'ont pas négocié simplement une répartition de la carte des circonscriptions, mais elles se sont mises d'accord autour d'une stratégie commune qui est de construire une majorité politique au gouvernement, d'élire un premier ministre qui représente ce programme, et donc de s'accorder sur un programme. Pour ça, il a fallu faire quelques petits ajustements entre les organisations politiques pour que tout le monde s'y retrouve, mais ça reste un programme de rupture et un programme profondément écologique et de rétablissement de l'égalité entre les individus. Et enfin, de suite à ça, donc l'accord entre les différentes circonscriptions qui permet que sur toute la France, eh bien, les électeurs et les électrices n'auront qu'un seul ou qu'une seule candidate à choisir, c'est la candidate de la NUP ou de la NUPES ou de la NUPS, comme vous souhaiteriez l'appeler.
D'ailleurs, cette union, finalement, comme vous le dites, elle s'est accordée autour de certains thèmes. Ce n'est pas exactement les programmes des présidentielles. Vous êtes allé piocher un petit peu à droite à gauche entre les propositions des différentes instances politiques. Donc, cette union, c'est pourquoi faire? C'est quoi son objectif au final sur le plan national?
Alors, il y a effectivement un grand tronc commun, d'abord autour de certaines garanties sociales fondamentales, la revalorisation du SMIC à 1 400 euros net, la création d'une allocation d'autonomie jeunesse, un événement que j'appelle l'événement, mais qui est quelque chose de central, c'est le retour à la retraite à 60 ans. Et ça concerne aussi principalement les Français d'étrangers qui ont des carrières discontinues, etc. En France, ça veut dire aussi le blocage des prix des premières nécessités. Et ça, c'est aussi une mesure phare. Il y a aussi enfin l'abrogation de la loi El Khomri, qui était une des grandes erreurs du gouvernement Hollande par rapport à la destruction du code du travail, et puis l'adoption également d'une démarche de planification écologique autour de la règle verte, qui est donc un principe constitutionnel qui vise à ne pas prendre à la nature plus qu'on peut lui retirer. Et par exemple aussi des sujets, on en reviendra peut-être sur l'Europe, où on acte, toutes les organisations politiques actent le fait que donc il est possible de désobéir au traité européen pour mettre en œuvre notre programme, et tout un tas de mesures aussi autour de la fin de la monarchie présidentielle et donc la mise en œuvre d'une sixième république. Et donc les organisations politiques ne disparaissent pas au sein de cette NUPES, elles auront vocation aussi à exister ensuite dans des groupes parlementaires autonomes, mais c'est bien autour de cet intergroupe et cette construction d'une majorité qui est nécessaire. Et donc pour la première fois, on fait d'une élection législative un troisième tour de ce changement politique national pour justement obtenir un Premier ministre, et donc d'une certaine façon, faire un pied de nez à la Ve République et élire par le peuple le Premier ministre qui pourra porter ce programme.
D'accord. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez parlé de l'Europe. C'est un sujet très important pour les Français de l'étranger. Hein. On en bénéficie largement en étant installé aux quatre coins des 27 États constituant l'Union européenne. Comment finalement concilier les deux visions? Et ça, je vais poser la question à Europe Écologie Les Verts, représentée par Alexandre Château-Ducos, qui ont une fibre très européenne, aussi comme Cécilia Gondard du Parti socialiste. Et finalement, certains se disent qu'ils ont mangé leur chapeau sur l'Europe.
Oui, non, non, pas du tout. Et je pense qu'il y a plusieurs commentaires de leaders d'Europe Écologie Les Verts qui ont bien expliqué. Il n'est pas du tout question de Frexit ou de mots ultra qui auraient pu être accolés à la NUPES. C'est pas du tout ça. Désobéir à certaines directives qui peuvent être imposées par cette Europe libérale qu'on a combattue depuis tant d'années, c'est un peu ça l'objectif, c'est-à-dire avoir une sorte de principe de précaution vis-à-vis de directives nocives, notamment pour l'environnement, pour les aspects sociaux. Et il y a déjà beaucoup de pays qui dérogent au droit européen, mais c'est certainement pas de remettre en cause à la fois les traités ou la hiérarchie des droits. Donc on reste dans l'Europe, on essaie de l'adapter. Et je dirais, c'est une sorte de pirouette du calendrier, puisque Macron n'a dit pas moins que ça, à Strasbourg lundi, en faisant son discours, en voulant lui aussi changer les traités. Bon, je pense que c'est juste une question de terminologie. Alors bien sûr, nos adversaires vont sauter dessus pour essayer de créer de la division là où il n'y en a pas. Il n'est pas question de sortir des traités, il est question d'aménager pour plus de social, pour plus de démocratie, pour plus d'écologie. C'est uniquement ça, c'est-à-dire à tirer vers le haut les traités et on trouvera des majorités, surtout si on obtient la majorité qualifiée et pas la majorité sur certains domaines. Qui doit être total. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ne pas faire peur à l'électorat avec des épouvantails. On restera dans l'état de droit, on restera dans la hiérarchie des normes. Et c'est ça qu'il faut surtout asséner comme leitmotiv. Et je dirais, nous, on est aussi là pour ça. C'est-à-dire, on fait confiance à cette coalition. Pour garder cet esprit européen qui est l'esprit progressiste que tout le monde veut. Mais on veut plus de social, plus de démocratie, plus d'écologie.
D'accord.
Si je
Donc
peux
en
me
fait.
permettre un petit complément par rapport à ce qu'a dit Alexandre, c'est par exemple la cantine bio pour tous les enfants, qui est un programme, un élément qui est porté très fort par toutes les organisations politiques. Et ben aujourd'hui, telle quelle, dans les traités européens actuels, elle est rendue difficile par un certain nombre de traités qui empêchent la mise en œuvre. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, pareil pour le blocage des prix qui fait partie du programme commun. Et donc, justement, la question, c'est si on veut prioriser notre programme, eh ben, on s'adapte par rapport à ce que font les autres pays dans les autres traités. Et d'ailleurs, d'autres pays le font déjà dans plein de situations ponctuellement et ça se passe très bien.
D'accord, donc finalement, à vous entendre, chacun arrive un petit peu avec sa vision et au fil d'une éventuelle mandature où vous serez majoritaire, chacun pondérerait un petit peu les autres pour trouver un point commun qui soit acceptable pour tous. Donc on est parti pour 5 années en fait de négociations un peu permanentes, si vous arrivez au pouvoir.
Vous avez enfin, si je peux juste prendre la parole, après, éventuellement, Cécilia peut aussi abonder en mon sens, je pense, parce que aussi bien Cécilia que moi-même, que vous-même, Fabien, on est au Benelux, par exemple, et il y a des accords de coalition. C'est-à-dire, c'est un peu ce prisme très franco-français qui pense que pour faire une politique, il faut un seul parti et qu'il soit majoritaire. Et nous, on est vraiment au Benelux, et pareil en Allemagne, dans tous les pays nordiques, ça se passe comme ça. C'est-à-dire,
Et
on
tout ça
arrive à
pour
faire.
finir, c'est l'art du compromis, en fait, qu'on va devoir
Exactement,
appliquer.
c'est ça qui, si on arrive à évoluer politiquement, et je dirais la gauche avec la NUPES, elle est exactement dans cette démarche-là. Et c'est intéressant parce que ça permet justement de libérer certains blocages et peut-être d'arriver à des avancées certaines dans tous les domaines que j'ai déjà exposés.
Finalement, c'est un peu l'esprit d'une sixième république qui serait en gestation.
Exactement ce que j'allais dire, qu'on sait, on est justement tous d'accord, je pense, depuis très longtemps sur la Sixième République plus parlementaire, que ça implique des accords de coalition et des compromis, et que vous voyez qu'on est déjà prêt à les faire, et on est déjà rentré un peu à notre manière un temps en avance dans la sixième République. Il faut savoir quand même que quand on regarde les votes sur les 5 dernières années à l'Assemblée nationale, sur tous les sujets comme les lois de sécurité globale ou quand le gouvernement décide que les journalistes ne pourront plus filmer des manifs en France, etc., sur tous ces sujets-là, en fait, la gauche a déjà voté en bloc ensemble, on vote tous ensemble sur ces dossiers depuis 5 ans. Donc, en réalité, on aime bien souligner plus nos différences parce que c'est plus rigolo et que les gens aiment bien entendre ça. Mais on se coordonne déjà très bien au Sénat et à l'Assemblée nationale depuis déjà un moment.
D'accord, le temps file. Je vous propose qu'on passe dans la deuxième partie de ce podcast avec des problématiques plus dédiées aux Français de l'étranger. Je vous propose de commencer par la fiscalité. C'est un classique, c'est un serpent de mer, mais c'est aussi souvent le lien le plus, on va dire, intemporel que garde le Français avec la France, soit le service des impôts, mais aussi de façon un peu plus étendue, la couverture sociale. C'est quand on part de France, on découvre que finalement, on était quand même relativement bien couvert en France. Vous êtes partagé entre vous les différents thèmes, et donc c'est avec Florence Kozanski que je vais aborder les questions liées à la fiscalité et à la couverture sociale. Tout d'abord, je voulais rester un peu dans l'actualité. Le 26 avril a été publié dans les dernières actions du gouvernement de Jean Castex un décret qui monte la cotisation retraite des nouveaux fonctionnaires détachés à partir du 1er mai de 11%, c'est-à-dire qu'actuellement, sur leur salaire brut, les fonctionnaires détachés avant la date du 1er mai 2022 sont prélevés de 11% de leurs revenus pour financer leur retraite. Désormais, les nouveaux, ceux qui sont déjà en place, conservent le taux de 11%. Tous les nouveaux détachés depuis le 1er mai vont se voir appliquer un taux de 27%, soit un gap de 16 points, ce qui est important. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous le comprenez? Et finalement, on est très loin du discours d'Emmanuel Macron sur du pouvoir d'achat et sur aussi cette notion français de l'étranger, français à part entière. Là, on voit quand même que c'est... En France, il se passerait la même chose, un gap de 16 points comme ça en un décret, on aurait une grande manifestation. Ce n'est pas le cas chez nous. Comment vous le voyez, Florence Kozanski, et comment vous aborderiez la problématique des retraites des fonctionnaires à l'étranger?
Je pense déjà que ça doit faire, parce que comme ils ont baissé tellement le nombre de fonctionnaires à l'étranger avec leur programme Action publique 2022, ils sont obligés de récupérer des finances d'une façon ou d'une autre. Mais effectivement, pour moi, ça rentre aussi dans une démarche qui était le même esprit que d'ailleurs la réforme fiscale que voulait mettre en place Macron et qui a finalement été suspendue, mais pas abrogée, qui visait d'ailleurs à imposer les personnes et principalement les retraités au premier euro. Donc pour nous, et dans le cadre de la NUPES, ce qui est évident, c'est que cette réforme, elle sera abolie définitivement, on n'en parlera plus. Et dans le même esprit, en fait, qu'au niveau national, l'objectif, c'est d'imposer et de mettre en place une réforme fiscale progressive, où on va taxer les plus riches et réduire les impôts pour les plus pauvres. Et quand on parle des plus pauvres, on parle en France de personnes qui ont des salaires autour de 4 000 euros. Donc, c'est loin d'être pauvre, puisqu'on sait que 90% de la population gagne moins de 4 000 euros. Et en ce sens-là, en fait, cette réforme fiscale, elle pourra s'appliquer de la même manière auprès des Français de l'étranger, dans le sens où il s'agira d'aller chercher à l'étranger les grandes fortunes qui se sont... notamment enrichi sur la base d'un système français bénéficiant services publics, etc. Donc, ça veut dire qu'on rétablit ce qu'on appelle l'exit tax, on combat donc les égalités, les exilés fiscaux, et pour ça, ça nécessite des moyens. Il faut savoir qu'à Bercy, dans les dernières années, il y a eu énormément de postes qui ont été supprimés dans tout ce qui est la lutte contre la délinquance fiscale. Nous, à la NUPES, lorsqu'on parle de lutte contre la délinquance, on a tout à fait à l'esprit que c'est bien les délinquants fiscaux qui sont notre priorité. Et en fait, donc, en rétablissant cette progressivité et en allant chercher l'argent là où il est, eh ben, on sera en mesure de renforcer les services publics à l'étranger. On pourra en reparler après, mais il s'agit à la fois évidemment de réfléchir à une plus grande protection sociale, à des services publics plus amplifiés. Et ça, c'est possible. Il y a l'argent pour le faire et on le fera.
Et puis, comme en France, parce qu'en fait, c'est le programme aussi au niveau français, c'est-à-dire qu'on supprimera les flat tax et on les remplacera par de la progressivité de l'impôt. On sait très bien que la réforme fiscale d'Emmanuel Macron, qui voulait taxer tout le monde à 20% dès le premier euro, a juste fait un tollé, était extrêmement mal perçue, mais aussi injuste. Et en fait, ce qu'on propose là, c'est de rétablir de la justice sociale à travers la justice fiscale, de rétablir une meilleure progressivité, d'avoir un impôt progressif par défaut.
Mais cette c'est mesure, ce que la NUPES propose. Est-ce qu'on n'a pas déjà cette mesure à travers le taux moyen déjà mis en place?
Et le taux moyen est très difficile. Vous le savez bien si vous êtes en Belgique d'ailleurs, parce qu'on en a beaucoup qui le demandent à la frontière. C'est un bazar administratif. Alors, évidemment, ça implique aussi de déclarer ses impôts mondiaux, mais je pense que ça dérange personne. Tous les petits revenus, les gens normaux, entre guillemets, n'ont pas de toute façon de compte caché aux îles Caïmans. Donc, d'en faire le régime par défaut, c'est ce qu'on a envie de mettre en place. Ça implique uniquement de changer le code des impôts, donc c'est pas si compliqué que ça. Si le gouvernement voulait le faire, il l'aurait déjà fait. Et on l'a proposé à l'AFE depuis longtemps collectivement. Il y a une mauvaise volonté face à ce besoin de progressivité et de justice.
Mais on est d'accord, donc on resterait sur une imposition des revenus français et non pas, même si on déclare tous ces revenus pour pouvoir, se classer dans la grille de progressivité, il n'est pas question de taxer les revenus du monde entier.
Pour l'instant, non, mais vous savez très bien que les revenus mondiaux, de toute façon, sont pris en compte, en effet, pour déterminer le taux d'imposition. Donc, on aura une justice de ce côté-là aussi. Hein.
D'accord.
Puis, il y a aussi la prise en compte de deux choses qui sont, l'existence de pays à fiscalité réduite ou bien paradis fiscaux. Donc, effectivement, là, il y a une attention particulière. Et puis, le coût de la vie qui n'est pas le même dans un pays ou dans l'autre, puisque dans la France, on est en un pays où il y a un service public assez développé et donc un reste à charge moins important que dans certains pays où des revenus élevés sont nécessaires pour subvenir à des besoins aussi basiques que son école et la santé.
Une envie de réformer la CFE ?
Ben, ça fait partie des propositions d'étendre la CFE et de la rendre plus accessible à la plus grande partie des personnes pour s'assurer en fait, qu'ils puissent avoir cette protection sociale. Et justement, dans cette idée d'aller en avant avec la progressivité de l'impôt et donc de récupérer plus de recettes, on a les moyens pour renforcer cette sécurité sociale auprès des Français de l'étranger.
La CFE, donc, avant,
ça va dans ce sens-là.
La CFE avant fonctionnait un petit peu comme la sécu française, entre guillemets, c'est-à-dire sur un barème progressif, il fallait déclarer ses revenus, etc. Aujourd'hui, on est sur un forfait, plus comme une société d'assurance classique comme on connaît à l'étranger. Donc, quelque part, finalement, c'est mettre fin à ce nouveau dispositif et revenir aux fondamentaux avec une cotisation qui soit mise en adéquation aux revenus de l'assuré.
Pour la CFE, c'est intéressant parce que, justement, pour rappel, hein, historiquement, la gauche n'avait jamais la présidence de la CFE. Et elle vient de l'obtenir lors des dernières élections à l'AFE. Et c'est bon pour les Français d'étranger, et c'est bien, parce qu'il y avait quand même une réforme qui était prévue, de réforme de la CFE, pour un moins-disant social. Je pense qu'on a gagné ici 5 ans, 6 ans, je crois, pour ce mandat-là, pour justement renforcer l'accès à la CFE pour les catégories sociales qui en ont le plus besoin, et on l'a vu pendant la pandémie. Donc, je pense qu'il va y avoir une réforme, comme vous le dites, mais qui sera vraiment une réforme sociale, parce que la gauche a réussi à remporter cette élection. Alors, et on le voit notamment dans le choix des hôpitaux et des choses comme ça, qui sont souvent des hôpitaux assez chers, et les gens ne peuvent pas cotiser. Donc, je pense qu'il y a une réforme qui va avoir lieu, et elle va être pour un mieux-disant social.
Pour ceux qui sont intéressés, on a un podcast disponible avec la nouvelle présidente de la CFE sur notre site, qui nous explique un petit peu ses ambitions. Juste, je vais quand même corriger. C'est la gauche qui a remporté la présidence, mais avec le soutien des LR, hein, une alliance, on va dire, un petit peu de fait pour s'opposer à La République En Marche. On ne va pas rentrer dans le débat, sinon on ne va pas s'en sortir. Et je vous propose qu'on passe au deuxième thème, qui est l'éducation et la jeunesse. D'ailleurs, au niveau du réseau, la situation se tend un peu plus. On a un problème de recrutement, il est bien connu, et risque de s'intensifier, puisque L'EFE, ainsi que le ministère de l'Éducation et des Affaires étrangères, ont annoncé avant-hier dans un comité technique qu'il n'y aurait plus de recrutement par résidence, c'est-à-dire des gens détachés directement de France, et que ça serait uniquement des contrats locaux, ce qui ne veut pas dire que ça serait forcément que des gens du pays, mais ça peut être des Français, mais qui seraient sous un régime de contrat local, ce qui, on a tout de suite compris, apporte quand même de grands changements, puisqu'on ne parle plus de couverture, etc. Le corps enseignant a décidé de se mettre en grève le 19 mai. J'imagine que la NUPES soutient ce mouvement, et c'est Cécilia qui va nous répondre.
Oui, alors on a assisté vraiment à un désengagement de l'État pendant, sur l'enseignement pendant ce quinquennat, et surtout à un virage singulier qu'on n'avait encore jamais vu avant. Et la progression du vote à l'étranger témoigne aussi de cette remise en cause de la politique, notamment sur l'éducation, avec des augmentations de frais de scolarité et une privatisation du réseau. Alors, sur l'enseignement, Macron s'est fait élire il y a 5 ans sur un programme qui était intenable, du doublement de nombre de places en 5 ans. Il s'en est vite aperçu, il le savait probablement déjà de toute façon. Les budgets ne suivaient pas, donc il a fallu faire appel à des fonds d'investissement. Alors, il a déshabillé Pierre pour habiller Paul, il a imposé des coupes budgétaires massives en 2017 qui ont mené à des hausses de frais de scolarité pour les familles. Et il les redistribue à qui ? Aux établissements qui ont été rachetés ou créés par un fonds d'investissement qui s'appelle Odyssée. C'est un fonds d'investissement qui, évidemment, comme le nom l'indique, fait des investissements et cherche du profit et qui a du coup créé pas forcément des établissements là où on en avait besoin, mais là où ils avaient envie où ils espéraient faire du profit en créant parfois une concurrence malsaine avec les établissements existants, ce qui va évidemment encore porter un poids sur les familles. C'est le cas dans beaucoup d'endroits. Ils ont racheté tout un réseau dans les Balkans. Ils ont aussi créer des établissements qui sont en concurrence directe avec les établissements existants, par exemple à Amsterdam ou à Bruxelles. Les familles, d'un côté, on a des besoins des familles qui ne sont pas comblés, et puis de l'autre, on cautionne tout simplement que des établissements aujourd'hui à but lucratif viennent concurrencer les établissements existants. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on reviendra immédiatement. Le deuxième, c'est qu'on veut élargir la gratuité. Vous le savez, il y a de moins en moins de familles boursières dans les lycées français, en particulier en Europe. Donc, c'est à l'évidence que les bourses ne fonctionnent pas suffisamment bien. Ça doit être un choix pédagogique et pas un choix financier de mettre ses enfants. Pour vous donner un exemple, j'ai vu une famille cette année qui a dû choisir entre les deux enfants et qui ne scolarise au lycée français plus qu'un des deux. C'est quand même d'une très grande tristesse. Donc, ce qu'on propose, c'est d'élargir le socle de la gratuité, c'est-à-dire que les classes moyennes aujourd'hui sont aidées malgré tout par les bourses sur critères sociaux, mais pas suffisamment. Donc, on va élargir évidemment les familles, le nombre de familles, le socle de familles qui ont droit à 100% de bourse, c'est-à-dire une gratuité sur les lycées français.
Le gouvernement
ce sont les propositions sur lesquelles on s'est tous mis d'accord très facilement d'ailleurs au sein de la NUP.
Le gouvernement Macron a déjà fait un geste en retirant dans le calcul avant, on prenait en compte la valeur de la résidence principale. Désormais, ce n'est plus le cas. On ne prend en compte que les revenus. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi si c'est le cas. Que faire de plus
à part, en fait, il faut changer. Ce n'est pas compliqué. Il y a une formule des bourses qui est très complexe, donc on ne va pas rentrer dans la technicité, mais quand on prend le temps de décortiquer, comme on a pu le faire avec d'autres, la formule des bourses, on voit bien qu'on peut réussir à élargir la gratuité. C'est pas vraiment compliqué. On a toujours des seuils quand même immobiliers, même s'ils ont été relevés à l'évidence. Maintenant, sur les professeurs, c'est pas compliqué. Quand on supprime ceux qui sont détachés sans autoriser les établissements à recruter localement, on se retrouve avec des élèves sans professeur à la rentrée, et c'est ce vers quoi on était en train d'aller. Donc, la solution qu'on a actuellement n'est pas du tout acceptable, et je comprends que tous les professeurs soient en colère. Le système précédent ne l'est pas non plus. Je pense qu'il faut recommencer à détacher, et puis surtout, on touche là à un problème de fond, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus de professeurs en France, donc on ne les détache plus à l'étranger. Donc, oui. On veut aussi, et c'est dans l'accord de la NUP aussi, revaloriser toutes ces professions, tous ceux qui nous ont sauvés pendant le Covid, tous ceux qui ont continué à ouvrir les classes et à faire et à enseigner en pleine crise de la Covid. Donc, la revalorisation de tous ces métiers, et on supprime là le corps diplomatique. On voit vraiment l'arrogance du gouvernement qui considère que être diplomate, ce n'est même pas un métier. Donc, soyons clairs, être prof aussi, c'est un métier, ça devrait être revalorisé. Et si on en avait plus en France, on pourrait aussi en détacher plus à l'étranger.
D'accord. On va passer au troisième thème, c'est-à-dire la vie consulaire, les relations entre les expatriés. Je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, on va dire plutôt donc les Français de l'étranger. Et leur administration consulaire, la vie commune de l'animation de notre communauté. Et c'est Aurélio Pierroni qui va répondre à ces questions pour Génération S. Vous êtes au Kenya, hein, merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre. Alors vous, justement, qui êtes dans... Là, on est tous quasiment en Europe. Finalement, on est assez proche de la France. Ce sentiment d'éloignement, même s'il existe, il va se limiter, on va dire, à trouver pas du bon pain à Bruxelles, pour mon cas. Et c'est un grand manque, mais j'imagine qu'au Kenya, eh ben, le sentiment d'éloignement est plus fort, que le consulat est donc plus présent dans votre vie. On a vu au fil des trois dernières années une dégradation importante du service, avec des prises de rendez-vous, des prises de contact quasiment impossibles. La solution du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est la mise en place d'une plateforme France consulaire, service public français de l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la vision de votre alliance? Qu'est-ce que vous désirez mettre en place pour améliorer cette situation?
Oui, alors, du coup, je reviens après avoir été coupée parce que je vis dans un pays où l'infrastructure n'est pas toujours au point et que les connexions Internet sont assez instables régulièrement. Mais pour revenir donc à votre question, pour moi, c'est important justement de ne bien pas parler d'expatriés parce que les Français dans le monde, ce sont 10%, moins de 10% d'expatriés, selon les derniers sondages, d'expatriés donc d'entreprises qui ont eux-mêmes des sujets et besoins des consulats, mais qui sont quand même beaucoup plus liés avec la France, qui perdent beaucoup moins leur relation avec la France que d'autres Français de l'étranger. Les autres, ce sont des binationaux. Il y a beaucoup de binationaux. Et donc, l'éloignement avec la France, il est violent pour eux parce que c'est difficile de se sentir français quand on est traité comme un citoyen de seconde zone, évidemment. Et puis, il y a des, comme tous les personnes qui vont vivre à l'étranger, il y a des migrants économiques. Il y a des gens qui vont tout simplement là où il y a du boulot pour eux, où ils ont une valeur ajoutée, tout simplement. Il y a énormément de jeunes.
De départ de la France actuellement, c'est la recherche d'emploi. Et c'est vrai que c'est un phénomène assez récent pour la France, qui avait peu connu finalement des migrations de masse. On est passé en deux décennies, on a multiplié par trois le nombre d'expatriés. Et comme vous le disiez, tout le monde n'est pas forcément dans une ville avec de la fibre optique, etc. Donc pour vous, le mouvement de numérisation, le mouvement de dématérialisation qui est actuellement le cap pris par l'administration sous l'impulsion du gouvernement Macron, c'est plutôt quelque chose à déconseiller. Vous reviendrez plutôt du consulat, revenir à une situation.
Je vais vous donner mon opinion justement par rapport à ce que je vous disais, c'est que les gens ne vont pas à l'étranger par choix, contrairement à ce qu'on leur dit souvent, que les gens vont à l'étranger parce que c'est un parcours de vie ou sont nés à l'étranger parce que c'est un parcours de vie. Dans ce contexte, être complètement coupé de son pays, d'une de ses nationalités ou de sa seule nationalité, c'est quelque chose de très violent, c'est quelque chose qui rend les gens précaires. Ils ont besoin de pouvoir rentrer en France, aller en France pour avoir accès à des soins, pour avoir accès à l'IVG dans le cas de beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des pays où l'accès à l'IVG n'est par exemple pas du tout garanti, ce qui a été empiré pendant le Covid. Face à ça, le seul lien que ces Français ont avec la France, ce sont les consulats. Or, ces derniers temps, on l'a vu pendant le Covid, les consulats, les services consulaires ont été débordés. On a des agents consulaires qui ont dû traiter un nombre de visas, de cas de Français en difficulté par jour qui est inadmissible. On a des nombres de burn-out qui sont incroyables, et les personnels consulaires se trouvant loin également de leur siège sont forcément moins protégés par leur employeur. C'est quelque chose de mathématique quand on vit loin de la métropole. Donc, mettre en place une plateforme comme ça pour répondre à ce manque, ça paraît très bien sur le papier. À Génération, on est pour l'innovation. L'innovation, c'est très bien. Ça permet, par exemple, d'éviter de faire des kilomètres en voiture. Ça permet de permettre à des jeunes ou des gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans la capitale du pays où ils sont, d'aller voter, de faire des papiers en ligne dont ils ont besoin régulièrement, de faire des déclarations, etc. Mais par contre, on est encore une fois des Français à l'étranger. On est 3,5 millions dans plein de pays différents. Donc, les réalités sont extrêmement différentes. Une plateforme en ligne, c'est un très beau robot, mais un robot, ça ne répond pas à toutes ces réalités différentes. Il y a en plus beaucoup de retraités. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ou accès à la fibre, comme vous l'avez dit, ou tout simplement la compréhension des services dématérialisés. C'est pareil qu'en France. Donc, un vrai service public, c'est évidemment une annulation de cette politique de coupure des budgets des consulats dans le réseau, par respect aussi pour les employés des consulats. Le comité Action 2022 qui est en place depuis le gouvernement Philippe est quelque chose qui cherche justement à réduire de plus en plus les postes en mettant comme solution magique la technologie. C'est quelque chose qu'on veut, par exemple, arrêter absolument. Il faut remettre des humains qui sont les seuls encore liens au service de ces Français de l'étranger. Il faut remettre de la substance parce que c'est encore une fois le seul lien qu'on ait. En effet, il y a plein de façons. Il faut de toute façon, non pas animer, mais vraiment s'occuper des communautés de Français à l'étranger qui sont une richesse pour la France. Il faut s'en occuper. C'est encore une fois pas des citoyens de seconde zone. Pour ça, il y a des représentants, par exemple, qui sont élus, qui ont encore très, très peu de moyens, qui sont des conseillers des Français de l'étranger. On est plusieurs à en être ici. Il faut que ces représentants politiques des citoyens soient là justement pour les représenter, pour faire leur travail et non pas pour appuyer les consulats dans leur travail. Et au jour d'aujourd'hui, les consulats ayant très peu de moyens, c'est vrai qu'en tant qu'élu, on n'a pas le temps de faire ça. Il faut également que ces conseillers des Français de l'étranger et l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger qui les représente, aient plus de moyens. Des moyens d'abord pour pouvoir prendre des décisions, pour soutenir les associations, la communauté française, pour représenter les groupes d'intérêt des communautés françaises face à l'administration, parce que le consulat, évidemment, on veut qu'il y ait plus de moyens, ça reste une administration. Nous, on est là pour faire marcher la vie politique. Et il faut aussi que l'Assemblée des Français de l'étranger, je pense qu'Alexandre ne me contredira pas, ait beaucoup plus de moyens et des budgets qui soient propres et que l'administration ne fasse pas que l'écouter en faisant le contraire. Par exemple, c'est le cas pour le financement des associations. Et il faut vraiment qu'on ait un poids via cette Assemblée des Français de l'étranger et que les Français soient représentés démocratiquement, ce qui n'est pas encore bien le cas aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est, encore une fois, je le disais, on estime qu'il y a 3,5 millions de Français à l'étranger, c'est plus d'habitants que dans les départements et territoires d'outre-mer. Ce qu'on veut, c'est renforcer les pouvoirs des élus, justement, des Français de l'étranger, notamment via l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce qu'on voudrait, c'est, alors c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on définisse, mais c'est en faire un équivalent de conseil régional, tout simplement. Il faudrait avoir une vraie représentation et cette représentation aurait un poids par rapport à l'administration qui serait enfin forcée de reconnaître en effet le rôle des élus sur place.
On va finir avec un quatrième thème et Alexandre donc, va nous accompagner pour finir, qui est l'écologie. J'ai envie de dire, alors donc pour être un bon expatrié, il ne faut plus prendre l'avion, plus rentrer en France ?
Non, mais de nouveau, il ne faut pas caricaturer l'écologie. Il ne faut surtout pas en parler en termes négatifs ou en termes de contraintes, parce que justement, vu les échéances qui nous attendent, vu les appels du GIEC depuis de très nombreuses années et les conséquences qui sont attendues et prévues, je ne dis même pas prévisibles, mais je dis prévues, il y a des comportements à changer. Donc, il ne faut pas pointer du doigt obligatoirement les Français d'étranger, mais il y a des pratiques qui vont devoir évoluer, on en est tous conscients. Comme dirait Churchill, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début de la fin, mais c'est peut-être le début du début qu'il faudrait initier, parce que pour l'instant, rien n'est fait en termes de prise en compte de l'écologie. Le quinquennat de Macron n'a pas du tout avancé sur ces thématiques. Et en ce qui concerne l'écologie, donc elle est dans le terme NUPES, parce que c'est un point central. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans cette coalition qui a été créée. On est conscient des enjeux, on est conscient des responsabilités. C'est pour ça qu'on a fait tous les uns les autres cet effort de coalition. Et l'écologie, c'est pas juste une thématique comme ça, une accolée à l'autre. Elle prend tout son sens dans toutes les démarches que la future majorité, j'espère, va entreprendre. Donc, nous, on n'a pas cette démarche de mettre un Premier ministre qui, par exemple, aurait une casquette de l'écologie pour voir si ça rentre dans des tuyaux adaptés au néolibéralisme ou au système économique actuel. En fait, on a, je pense, la gauche et la NUPES à un certain niveau de compréhension des enjeux et un certain niveau en termes d'écologie telle qu'il faudrait la concevoir, je ne dis même pas l'appliquer, parce que tout ça, ce sont des outils à mettre en place. Et la future équipe gouvernementale, eh bien, elle aura déjà ça dans le sang. C'est un peu ça le signal qu'il faut passer, c'est qu'on est déjà à un niveau de conscience qui permet de ne pas avoir un seul homme qui est chef avec une petite baguette et qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, en fonction de quels critères. Non, c'est vraiment que chaque ministère puisse prendre déjà en fonction de l'état des connaissances les actions appropriées. Et je dirais, c'est pour ça qu'il faut décorréler un peu l'écologie d'un ministère. Il faut qu'il soit partout, tout le temps, et il faut qu'il soit réfléchi à toutes les actions politiques qui vont être entreprises.
Donc l'écologie, finalement, ça va être une valeur transversale et même cardinale, j'ai envie de dire, du potentiel futur gouvernement qui sortirait de la NUPES.
Absolument. Florence parlait tout à l'heure de règles vertes. C'est un terme de la France insoumise, mais je pense que chacun dans nos partis respectifs, on a aussi cette thématique-là. Et je peux prendre quelques exemples. Par exemple, en termes d'éducation, on peut parler d'écologie, par exemple avec le développement du label E3D, qui est un label magnifique qui a été mis en place par l'Académie de Versailles et qui essaie d'être généralisé dans le système éducatif, qui permet de sensibiliser tout le lycée, à la fois les élèves, mais aussi le corps enseignant, dans une démarche de développement durable, de meilleure intégration dans son milieu social et de la ville dans laquelle il est implanté. Enfin, c'est vraiment un outil extraordinaire. Si je prends le commerce extérieur, c'est des promouvoir…
Deux secondes sur cette norme. Donc, au final, pour revenir sur les Français de l'étranger, cette norme, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être imposé aux nouveaux établissements homologués. C'est-à-dire, si vous voulez être homologué à EFE, il faut que vous correspondiez à des normes écologiques. Ça pourrait être une façon de transmettre notre vision du nouveau bâti.
Fabien, vous auriez pu faire partie de l'élaboration, par exemple, du programme des écologistes pour les consulaires, puisque c'était une des thématiques qu'on avait proposées. Parce que ça tombe sous le sens. C'est vraiment, il ne faut pas voir l'écologie comme une écologie punitive, comme on veut bien nous adosser ce qualificatif. C'est vraiment, on veut avoir l'écologie joyeuse, et donc l'écologie surtout concrète, qui permet de solutionner les problèmes, et pas uniquement là, comme pour paraphraser certaines personnes, pour emmerder les Français. On n'est pas là pour arriver à des politiques qui vont permettre un moins-disant. C'est pas du tout ça la philosophie. On a des échéances qui sont fixées par le GIEC, tout le monde en est conscient, je crois qu'il n'y a plus de débat là-dessus, mais qui vont percoler dans toutes les thématiques. Et on a évoqué la fiscalité, donc si on peut de nouveau… Qu'est-ce que c'est que la fiscalité en écologie ? C'est justement taxer peut-être les riches qui ont eu une augmentation exorbitante de leur patrimoine depuis 10 ans, ça l'a accru encore avec la pandémie, alors qu'on parle, nous, pour les classes populaires ou les classes moyennes, de paupérisation et de lutte pour l'inflation. Donc, vous voyez, tout ça, il va falloir effectivement trouver des financements. Donc, on voit que c'est transversal, cette politique écologique, et qu'elle est effectivement centrale. Donc, c'est je pense, vraiment le leitmotiv de cette coalition aussi.
Et elle sera prise en compte partout, donc même chez les Français de l'étranger, comme on vient de le dire, avec l'homologation à EFE, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que pourrait faire un expat pour être… on va dire plus écolo, mieux écolo, j'ai envie de dire plutôt, parce que c'est vrai, on est parmi les premiers voyageurs en avion, etc. Est-ce que on doit réfléchir à d'autres modes de transport, ou est-ce qu'on doit compenser? Comment déculpabiliser? Parce qu'il y a pas mal de Français de l'étranger qui déculpabilisent à prendre l'avion, etc., régulièrement pour venir en France. Qu'est-ce que vous leur direz?
Non, mais bien sûr, il y a cette qui vient de Suède, ce phénomène qui est un peu de lutte contre l'avion à tout prix. Donc, il y a déjà des bonnes solutions qui est de dire je ne prends pas l'avion, par exemple, si on est à moins de 2 heures de mon déplacement, ou à moins de 1000 kilomètres, et s'il y a une alternative en train, par exemple. Donc, on touche déjà beaucoup de Français d'étranger qui vivent en Europe. D'accord. Donc, de nouveau, je ne pense pas que ce soit une question à prendre comme ça, mais il y a beaucoup d'initiatives de Français d'étranger localement pour justement aider localement à des actions de prise en compte De la pollution, du nettoyage, des meilleures pratiques que l'on peut éventuellement apporter, mais ça, c'est aussi l'inverse, hein. Vous avez des pays extrêmement vertueux qui pourraient nous en redémontrer par rapport à certaines pratiques françaises. Donc, on n'a pas un programme avec on va tout solutionner parce qu'on a une solution magique. C'est par étapes qu'il faut aller. On a un tel retard dans tous ces domaines, on doit rattraper, 150 ans de développement de notre révolution industrielle, puisque c'est un peu ça, c'est que ce développement de cette économie telle qu'elle est basée sur le pétrole, puisque c'est en fait la découverte du charbon au début du 19e siècle qui a commencé à faire ce processus-là, eh bien, il faut tout déconstruire, et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais il va falloir faire effectivement des solutions immédiates. Et les solutions immédiates, c'est notamment le financement, et c'est en lien avec la fiscalité, taxer effectivement ceux qui ont le plus profité de ce développement-là.
D'accord. Je peux me permettre un petit complément aussi par rapport à ça. Je pense que ceux qui ont commencé à nous parler d'écologie punitive ou d'écologie négative, c'est ceux qui ont cherché à dessein à diluer le problème et à répartir la responsabilité sur les gens. Oui, on sait, prendre un avion, ça pollue. Ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, il y a 63 milliardaires français qui polluent autant que la moitié de la population française. Donc oui, on peut dire, OK, cette année, je ne vais pas voir ma grand-mère qui, quand j'habite aux États-Unis, je vais la voir en France, je fais un acte pour l'écologie. Mais ce que je peux faire aussi quand je suis un ou une résidente française à l'étranger, c'est aller regarder et commencer à sonner la sonnette d'alarme autour de tous ces milliardaires, ces banques notamment, qui nous disent qu'ils font de la finance verte, alors qu'en fait, ils continuent à faire de la financement des énergies fossiles. Nous, au Brésil, on est bien placés pour le savoir, puisque c'est aussi des banques du style BNP Paribas qui contribuent d'une façon plus ou moins indirecte, mais tout au moins directe, à la déforestation de l'Amazonie. Donc, c'est ça aussi les vrais enjeux. Et c'est important de les rappeler, et dans ce que dit justement Alexandre, dans ce changement en fait de conception et de paradigme de la façon de concevoir l'écologie, c'est de la considérer dans une priorité. Donc, on parle de planification écologique, on parle de réduction drastique de la consommation des effets de serre, non pas à 40%, mais à 65% d'ici 2030. Et pour ça, ça passe par un plan de réduction des énergies avec le 100% énergie renouvelable, avec la rénovation du logement, avec évidemment la rénovation aussi du train, etc., la reconstruction d'une agriculture raisonnée. Et tout ça, ça s'intègre dans ce plan-là. Et donc, considérer qu'on va regarder où est le véritable problème et pas savoir si on consomme du bio ou si on a du plastique. Bien sûr que c'est important d'avoir des changements des pratiques, mais ça ne se fera pas sans justement cette justice fiscale. Et ce que nous disons tous, ce que nous avons dit avec les Gilets jaunes et avec les jeunes pour le climat, c'est que la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. Et ça devra rester gravé dans la tête des gens et surtout dans la tête de ces 63 milliardaires français et de tous les autres compatriotes milliardaires du monde. Qu'on se le dise.
Alors, avant la fin du monde, ça va être la fin du podcast. On a déjà bien dérapé au niveau du temps, mais je vous remercie car c'était passionnant. On a balayé quand même de nombreux sujets. Donc, je rappelle qu'il y a 11 candidats dans toutes les circonscriptions des Français de l'étranger. Vous les retrouverez à la fin de cet article, les noms, les moyens de les contacter, tout ce qui est nécessaire. Je vous remercie, donc Florence Posanski pour La France Insoumise, Alexandre Château-Duclos pour ELV. Donc je vous remercie Florence Posanski pour La France Insoumise, Alexandre Château-Duclos pour Europe Écologie Les Verts, Bérénice Aurillo pour Génération S, qu'on recevait pour la première fois, et Cécilia Gondard qui était basée en Belgique. On aura l'occasion d'en reparler entre les deux tours. J'espère que vous aurez de nombreux candidats. En tout cas, les jeux sont ouverts, ça faisait longtemps que pour les Français de l'étranger, il n'y avait pas autant d'incertitudes sur autant de circonscriptions. On espère que la mobilisation sera là, parce que ce qui est important, c'est de faire entendre notre voix. Donc, n'oubliez pas, dès le 27 mai, vous pouvez voter en ligne. Vous allez recevoir par SMS et par email vos codes. Si vous ne les recevez pas, sachez que vous pouvez aller à l'urne le 5 juin, donc une semaine avant le premier tour en France, ne pas se tromper. Parce qu'on a la chance ou la malchance, selon les points de vue, d'avoir 15 jours entre les deux tours. On pense particulièrement à ceux qui ont des circonscriptions géantes. Ces jours ne leur seront pas de trop. Je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt et merci pour votre fidélité et à vous, les acteurs politiques, pour votre participation.
Merci beaucoup, à bientôt. Merci.